Après avoir été ainsi les objets de la miséricorde du Seigneur, ces quatre hommes s'étaient dit « Il faut amener à Jésus notre pauvre voisin paralysé ». Le paralytique leur avait peut-être répondu qu'il ne croyait pas que Jésus pût le guérir, mais ses quatre amis lui avaient raconté comment il les avait délivrés de leurs infirmités. S'il avait pu les guérir, pourquoi ne guérirait-il pas aussi un paralytique? Il me semble que rien ne doit être plus propre à réveiller la conscience d'un homme que de voir plusieurs personnes s'intéresser à lui. Les missionnaires ou les évangélistes ont souvent peur d'aller sur les brisés les uns des autres. Pour ma part, je serais très heureux que chaque famille du quartier reçût une quarantaine d'invitations pour chacune de nos réunions. On m'a parlé dernièrement d'un homme qui ne croit ni à Dieu ni à la Bible et qui ne va jamais à l'église. Un des jeunes gens qui distribuent les billets d'invitation lui demanda s'il n'aimerait pas assister à l'une de nos réunions. « Non, certes, répondit-il en colère, je ne crois pas à ces sortes de choses, on ne me verra jamais dans une foule de ce genre. » Un peu plus tard, un second jeune homme, ne sachant pas qu'on avait déjà parlé à ce monsieur, vint lui offrir un billet d'invitation. Notre homme était encore irrité, il lui dit carrément sa façon de penser et refusa le billet. La journée n'était pas achevée qu'un troisième billet lui fut offert. Cette fois, il ne se fâcha pas, sa conscience commençait à s'éveiller, il se contenta de refuser le billet. Enfin, il sortit pour faire une emplette. Le marchand glissa un des billets d'invitation dans le paquet, et quand l'acheteur fut rentré chez lui, quelle ne fut pas sa surprise en trouvant le malencontre au papier. C'en était trop. Frappé d'une telle persistance, il alla, non à notre réunion, mais dans une église voisine, et je crois qu'il est maintenant sur la voie du salut. Si une première tentative ne réussit pas auprès de la personne que vous désirez amener au Sauveur, faites-en une autre, et encore une autre, recommencez, jour après jour. C'est une grande chose que de sauver un homme, de lui aider à sortir de l'abîme où il s'enfonce, et à poser ses pieds sur le roc, de lui apprendre à chanter le cantique de la délivrance. Rien ne contribuera plus à réveiller la conscience d'un homme que de voir l'intérêt sincère que lui portent ses amis. Si vous n'y parvenez pas tout seul, faites-vous aider par d'autres. Ces quatre hommes rencontrèrent un obstacle sur leur route. L'entrée de la maison était encombrée par la foule et il était impossible de pénétrer jusqu'au maître. Peut-être demandèrent-ils à quelques personnes de s'écarter, mais non, personne ne voulait bouger. On ne se souciait pas de se déranger pour un malade. Il ne manque pas de gens qui ne veulent pas entrer eux-mêmes dans le royaume de Dieu et qui jettent des obstacles devant ceux qui voudraient y parvenir. Après avoir fait de vains efforts pour franchir la porte, les quatre porteurs se mirent sans doute à la recherche d'un autre moyen. Si certains d'entre nous avaient été à leur place, il est probable que nous aurions été tout à fait découragés et que nous aurions ramené le paralytique chez lui. Ces hommes avaient non seulement une grande foi, mais une grande persévérance. Ils sont résolus à amener leur ami à Jésus. S'ils ne peuvent pas passer par la porte, eh bien, ils trouveront moyen de passer par le toit. « Vous avez du zèle sans connaissance », dit-on souvent d'un ton de reproche. J'avoue que j'aime bien mieux cela que de la connaissance sans zèle. Voyez les efforts de ces quatre porteurs pour hisser leur fardeau jusque sur le toit. Si vous avez jamais essayé de porter un blessé dans un escalier, vous comprendrez que la besogne n'était pas facile, mais ces quatre hommes n'étaient pas d'humeur à reculer, les voilà enfin sur le toit. Il s'agit maintenant de faire descendre le paralytique dans l'intérieur de la maison. Il commence à enlever quelques tuiles. Je crois voir tous ces savants et tous ces docteurs lever la tête et se dire les uns aux autres quelle étrange manière de faire. Nous n'avons jamais vu entrer dans une maison par le toit. Ce n'est pas dans l'ordre. Ces hommes se laissent emporter par le fanatisme. Voyez quel trou ils ont fait. Mais la résolution de ces hommes est bien ferme, rien ne saurait les en détourner. Ils font descendre, au milieu de la chambre, la couverture sur laquelle était étendu le paralytique et déposent leur ami au pied de Jésus. Quelle bonne place ils avaient choisie, n'est-il pas vrai? Si vous avez un fils incrédule, un mari sceptique ou tout autre membre de votre famille qui se moque de la Bible et se raille du christianisme, portez-le aux pieds de Jésus et le Seigneur honorera votre foi. Quand Jésus vit leur foi, dit le récit de l'Évangile. Je pense que ces hommes se penchaient sur le bord de l'ouverture du toit pour voir ce qui allait se passer. Jésus crie, les regarda, et quand il vit leur foi, il dit au paralytique, « Prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » C'était plus qu'il n'avait demandé, il n'avait pensé qu'à la guérison de son corps. Amenons aussi nos amis à Jésus, et nous recevrons plus que nous n'aurons demandé. Le Seigneur a commencé par accorder au paralytique le don qui lui était le plus nécessaire. Il est très possible que sa paralysie eût été occasionnée par ses péchés et que pour ce motif, le Seigneur ait commencé par lui pardonner ses péchés. Les pharisiens se mettent à raisonner en eux-mêmes. Qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Le maître pouvait lire leurs pensées aussi facilement que nous pouvons lire un livre. Lequel est le plus aisé, leur répond-il, de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, je te le dis, emporte ton lit et t'en vas à ta maison. Aussitôt le paralytique s'élança sur ses pieds, tout à fait guéri. Il roula sa couverture, la jeta par-dessus ses épaules et s'en alla chez lui. Soyez sûrs que tous les sages et tous les philosophes qui n'avaient pas voulu se déranger pour le laisser entrer se dépêchèrent de lui faire place pour le laisser sortir. Il n'eut pas besoin de s'en aller par le toit, il passa par la porte. Mes chers amis, ayons confiance pour ceux que nous amenons à Christ. Croyons pour eux s'ils ne veulent pas croire pour nous-mêmes. Parmi ceux qui m'écoutent, il y en a peut-être qui ne croient ni à la Bible, ni à l'Évangile du Fils de Dieu. Amenons-les à Christ dans les bras de la foi. Il ne change jamais, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comptons sur de grandes bénédictions. Attendons-nous à voir les morts ressusciter, les pécheurs se convertir et le diable perdre sa puissance. De nos jours, aussi bien que du temps de Jésus-Christ, il y a des hommes qui sont possédés de l'esprit du mal. Amenons-les aux pieds de Jésus-Christ, afin qu'il puisse les guérir et les sauver. Arrachons de notre cœur cette maudite incrédulité et venons à Dieu tous ensemble, avec la certitude que nous verrons des signes et des merveilles s'accomplir au nom de Jésus. Notre Sauveur a conservé la puissance d'opérer des miracles et il en fera si nous lui demandons de tenir sa promesse. Il peut toujours sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. S'il se trouve parmi nous un homme inconverti, Dieu a la puissance de le sauver de ses péchés aujourd'hui même. Si vous avez le désir d'être converti, venez droit au Maître, comme le lépreux d'autrefois. Seigneur, lui dit-il, si tu le veux, tu peux me nettoyer? Jésus honora sa foi, et lui dit je le veux, sois nettoyé. Remarquez bien, cet homme avait mis le si où il fallait, si tu le veux. Il ne doutait pas de la puissance du Fils de Dieu. Le Père qui avait amené son Fils à Jésus avait dit si tu y peux quelque chose, aie compassion de nous. Le Seigneur le plaça immédiatement sur le terrain de la vérité en lui disant « Si tu le peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Omer, peux-tu croire que Dieu sauvera ton fils? Si tu le peux, le Seigneur prononcera la parole de délivrance, il te sera fait selon ta foi. Il nous est bon de nous placer aux pieds du Maître et d'y rester. Quand la pauvre femme, chez qui avait logé le prophète Élisée, vint lui demander de rendre la vie à son fils, le prophète dit à son serviteur de partir aussitôt et d'aller mettre son bâton sur le visage de l'enfant. Mais la mère ne voulait pas quitter le prophète, ce n'était pas assez qu'il envoyât son serviteur, ni qu'il fît mettre son bâton sur le visage de l'enfant, il lui fallait le mettre lui-même. Alors Élisée partit avec elle, et ce fut très heureux, car le serviteur n'avait pas pu ressusciter l'enfant. À nous aussi, il faut plus que le bâton du prophète, plus que le serviteur. Nous avons besoin d'aller au-delà, jusqu'au cœur du maître lui-même. Amenons-lui nos amis paralysés. Il est dit de Jésus que, dans une certaine ville, il ne put faire que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Demandons-lui de nous délivrer de cette malheureuse incrédulité qui empêche la bénédiction de Dieu de descendre sur nous et qui empêche aussi d'être sauvés ceux qui souffrent de la paralysie du péché. Chapitre 4. L'enthousiasme. Réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Je désire appliquer ces paroles aux enfants de Dieu. Le monde se perd, et il ne sera sauvé par l'évangile du Fils de Dieu que si les chrétiens se donnent plus de peine pour le lui porter. Quand, secouant notre torpeur, nous irons travailler dans la vigne de notre Père Céleste, alors ceux qui vivent dans le mal tout autour de nous entendront parler du salut, mais pas autrement. C'est très bien de former des comités et de rechercher la meilleure manière d'atteindre les masses, mais quand vous aurez fini de discuter, il faudra recourir de nouveau aux efforts personnels. Quiconque aime le Seigneur Jésus-Christ doit se rendre compte de ce fait, qu'il a une mission à remplir dans le monde, qu'il a une part dans cette grande œuvre du salut. On peut parler en dormant, et il me semble que nous en voyons souvent des exemples parmi les ouvriers du Seigneur. On peut même prêcher en dormant. Un de mes amis a prononcé une fois tout un sermon pendant son sommeil. Sa femme lui raconta le lendemain tout ce qu'il avait dit, et le dimanche suivant, dans son église, il prêcha le même sermon d'un bout à l'autre. Il l'a fait imprimer, et c'est un très bon sermon. On peut donc, non seulement parler, mais prêcher, pendant son sommeil. Il y a bien des prédicateurs, aujourd'hui, qui sont profondément endormis. Mais il est une chose, cependant, qu'il faut se garder d'oublier, on ne peut pas travailler en dormant. Il n'y a pas de meilleur moyen de réveiller une église que de la mettre à l'œuvre. En se réveillant soi-même, on réveille les autres. Il va sans dire que dès que nous déclarerons la guerre au monde, au péché, au diable, les sages du siècle hocheront la tête et s'écrieront « Votre zèle est sans connaissance ». Depuis que je suis entré dans la vie chrétienne, je n'ai pas cessé d'entendre cette objection. L'autre jour, on parlait devant moi d'un nouveau projet d'évangélisation et quelqu'un exprima l'espoir que le zèle serait accompagné de modération. Un autre ami répondit avec beaucoup de sagesse qu'il espérait que la modération serait accompagnée de zèle. Si l'on était ainsi, le christianisme serait comme une flamme s'étendant sur toute la surface de la terre. Il n'y a pas de puissance au monde qui puisse résister à la marche en avant des enfants de Dieu quand ils sont résolus à vaincre. Dans tous les siècles, Dieu s'est servi de ceux dont le cœur était tout entier dans leur œuvre. Satan appelle toujours à son service les gens paresseux. Dieu, au contraire, n'accepte que les hommes actifs et courageux. Quand nous serons bien réveillés et prêts au travail, alors Dieu se servira de nous. Vous vous rappelez où Élie trouva Élisée dans un champ qu'il labourait. Quand Dieu l'appela, Gédéon était occupé à battre son blé. Moïse gardait les troupeaux dans la montagne d'Horab. Aucun de ces grands serviteurs de Dieu n'était paresseux, ce qu'ils faisaient, ils le faisaient de toute leur force. Nous avons besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes de cette trempe. Si nous ne pouvons pas mettre au service de Dieu autant de talents, autant de connaissances que nous le voudrions, apportons-y au moins tout le zèle qu'il nous a donné. Monsieur, Taylor dit quelque part, voici comment le zèle des apôtres s'est manifesté, ils annonçaient l'évangile, en public et en particulier, ils priaient pour tous les hommes, ils suppliaient Dieu avec larmes de fondre les cœurs endurcis des hommes, ils se faisaient tout à tous afin d'en sauver au moins quelques-uns, ils parcouraient les terres et les mers, ils s'exposaient aux ardeurs du soleil de Syrie, et à la violence du vent Euroclidon, ils ne craignaient ni les tempêtes, ni la prison, ni la moquerie, ni la persécution, ni le jeûne, ni la pauvreté, ni les travaux, ni l'éveil, ils supportaient tout et ne faisaient de tort à personne. Rien ne leur coûtait, ni effort à faire, ni souffrance à endurer. S'ils pouvaient espérer de gagner une âme, ils persuadaient les hommes avec douceur, ils les pressaient avec humilité, ils leur déclaraient le conseil de Dieu avec puissance, ils veillaient sur leurs âmes, mais ne se mêlaient pas de leurs intérêts. C'est là le zèle chrétien, le zèle de la douceur, le zèle de l'amour, le zèle de la patience. Beaucoup de gens ont peur du mot enthousiasme. Savez-vous ce que veut dire ce mot ? Il veut dire en Dieu. L'homme qui est en Dieu sera certainement rempli d'enthousiasme. Quand on entreprend une affaire avec ardeur et zèle, on manque rarement de réussir. Un général d'armée qui est plein d'enthousiasme enflammera ses hommes et accomplira de bien plus grandes choses que celui qui n'est pas animé du même esprit. On nous dit que si nous sommes si enthousiastes, nous commettrons beaucoup d'erreurs. C'est probable. Avez-vous jamais vu un apprenti qui ne commit pas d'erreurs en apprenant son métier? Si vous ne vous mettez pas à l'œuvre par crainte de commettre des erreurs, il y a une grande erreur, au moins, que vous n'éviterez pas, la plus grande erreur de votre vie, celle de ne rien faire. Si chacun de vous fait ce qu'il peut, soyez sûr qu'il y aura de bons résultats. Que de fois nous voyons des moniteurs de l'école du dimanche se mettre à l'œuvre sans aucun enthousiasme. J'aimerais tout autant avoir des mannequins dans mon école que certains moniteurs que j'ai connus. Si j'étais charpentier, je pourrais en fabriquer autant que je voudrais. Regardez un de ces moniteurs qui n'ont ni cœur, ni feu, ni enthousiasme. Il arrive à l'école plus souvent en retard qu'en avance. Il va se mettre à sa place, puis, sans échanger aucune parole avec ses élèves, il commence à faire réciter la leçon et tire de sa poche un petit livre avec questions et réponses. Il ne s'est pas donné la peine d'étudier lui-même la leçon du jour et il est obligé d'avoir recours à ce que d'autres ont écrit sur le sujet. Un moniteur de ce genre-là ouvre son questionnaire. « Jean, dis-moi qui fut le premier homme ?» jetant un regard sur son livre. « Oui, c'est bien la question. » Jean répond à Adam. Nouveau regard du moniteur sur son livre. « Oui, c'est bien. » Puis il passe à un autre élève, et toujours avec l'aide de son livre, Charles, qui était l'autre ? C'était le neveu d'Abraham. « Très bien, mon garçon. » Et ainsi de suite. Vous me direz que j'exagère. C'est évident, et je ne prétends pas que cette description soit rigoureusement exacte, mais elle n'est pas aussi fantaisiste que vous pourriez le croire. Vous imaginez-vous que c'est en s'y prenant, de la sorte qu'on pourra faire grand, bien à des enfants pleins de vie et d'ardeur ? J'aime avoir un moniteur arriver de bonne heure dans son groupe et donner des poignées de main à tous ses élèves. « Bonjour, Jean, comment cela va-t-il ? » « Ah, te voilà, Charles. Cela me fait plaisir de te voir. » « Comment va le bébé ? Et ta mère ? » J'espère que tout le monde se porte bien chez toi. Voilà le genre de moniteur que j'aime. Quand il commencera à expliquer la leçon, tous les élèves écouteront ce qu'il dira. Il saura fixer l'attention du groupe tout entier et il pourra diriger leur cœur vers le ciel et vers Dieu. Citez-moi une seule personne qui ait fait de grandes choses pour Dieu et qui n'ait pas été remplie d'enthousiasme. Si c'est là l'esprit dans lequel nous travaillons, Dieu nous bénira et nous donnera le succès. Avant mon départ d'Amérique, en 1867, un de mes amis va me dire « J'espère que vous irez à Édimbourg et que vous assisterez à l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. » J'y étais l'année dernière et j'y ai reçu une impression qui ne s'effacera jamais. Le docteur Duff prononça un discours qui nous électrise à tous. Jamais je n'oublierai l'heure que j'ai passée dans cette assemblée. Je suivis le conseil de mon ami, j'allais passer 8 jours à Édimbourg dans l'espoir d'entendre le docteur Duff. Je me procurai le discours dont on m'avait parlé et j'en fus profondément ému. Le docteur Duff avait été missionnaire aux Indes. Au bout de 25 années passées à annoncer l'évangile et à fonder des écoles, il avait complètement perdu la santé et était revenu en Écosse. Il avait demandé la permission de parler à une des séances de l'Assemblée générale afin d'adresser un appel en faveur des missions. Après avoir parlé pendant un certain temps, il fut si épuisé qu'il perdit connaissance. On l'emporta de la salle. Dès qu'il revint à lui, il voulut y retourner jeûner. « Pas fini mon discours, dit-il, je veux le finir. » On lui dit qu'il ne pourrait le faire qu'au péril de sa vie. « N'importe, répondit-il. » Dussé-je en mourir, je finirai mon discours. On dut le laisser retourner dans la salle et mon ami me dit que ce fut un des spectacles les plus solennels qu'il avait jamais vu. quand le vieillard aux cheveux blancs parut à la porte de la salle, tous les membres de l'assemblée se levèrent et bien des yeux devinrent humides à la vue de cet imposant vétéran. D'une voix tremblante d'émotion, père et mère de l'Écosse, leur dit-il, est-il vrai que vous n'ayez plus de fils à envoyer aux Indes au service du Seigneur Jésus-Christ ? La voix de ceux qui demandent du secours s'élève de plus en plus, mais personne n'y répond. Vous avez dans vos banques les fonds nécessaires, mais où sont les travailleurs qui iront cultiver la vigne du Seigneur ? Quand la reine Victoria demande des volontaires pour son armée des Indes, vous donnez vos fils en grand nombre. Vous ne parlez pas alors de la perte de leur santé ou du climat dangereux ? Mais quand le Seigneur Jésus-Christ demande des travailleurs, l'Écosse lui répond « Nous n'avons plus de fils à donner ». Se tournant alors vers le président de l'Assemblée, « Monsieur le Président, dit-il, s'il est vrai que l'Écosse n'a plus de fils à donner pour le service de Jésus-Christ aux Indes, si personne ne veut aller porter à ce païen la bonne nouvelle du salut, bien que j'ai perdu ma santé dans ce pays, je repartirai demain, et ils sauront qu'il reste encore sur la terre un vieil. Écosse est prêt à mourir pour eux ? Je retournerai sur les bords du Gange et j'y sacrifierai ma vie en témoignage pour le Fils de Dieu. Bénissons Dieu de nous avoir donné un homme comme celui-là. Il nous faut aujourd'hui des hommes prêts, s'il le faut, à déposer leur vie pour le Fils de Dieu. Quand nous les aurons, nous ferons une impression profonde sur le monde. Quand les hommes verront que nous sommes absolument sincères, leurs cœurs seront touchés et nous pourrons les conduire à Jésus-Christ. Je n'approuvais pas Garibaldi en toute chose, mais j'avoue que j'admirais son enthousiasme. Jamais je ne voyais son nom dans les journaux ou dans un livre sans lire tout ce que je trouvais sur son compte. Il y avait quelque chose en lui qui m'enthousiasmait à mon tour. Je me rappelle entre autres une lettre qu'il écrivait en 1867 à ses compagnons d'armes.